La vérité, elle libère, et la vérité, c'est ta parole. Alors nous l'accueillons pleinement. Saint-Esprit, viens, bien sois le bienvenu au milieu de nous. Et Seigneur, viens disposer nos cœurs, nos esprits à t'entendre. Et saisis ma bouche pour qu'il n'y ait rien d'un peu perverti, mais que ce soit vraiment ta parole pure qui soit donnée, au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais un peu peut-être refaire l'historique. C'est très, très important de l'histoire, hein, comme matière. Je suis prof de français, mais l'histoire, je sais que c'est extrêmement important. Bon, l'histoire court terme de l'Église, il s'est passé quelque chose en mars 2009. En mars 2009, hein, révélation de la justice avec un ministère. Et il y a eu, c'est vraiment un tournant extrêmement important pour l'Église. Et je dirais que mars 2009, ça a été pour nous Zacharie 3. Zacharie 3, c'est-à-dire, je rappelle un peu Zacharie 3, le souverain sacrificateur Josué. Bon, notre Église s'appelle Josué. Pleine de recouverts de vêtements sales, et puis le Seigneur a dit, allez, bon, je t'enlève tes vêtements sales, je te revêts de vêtements de justice. Révélation de la justice. Et on est encore dans cette phase de maturation, de prise de conscience de tout ce que ça veut dire, la justice, être revêtu de la justice de Christ. C'est énorme, c'est énorme. Et petit à petit, ça descend. On nous a dit qu'il fallait au moins 3 ans, hein, pour que ça porte vraiment tout son fruit. Donc 3 ans, ça fait 2012. Et puis on est encore en phase de maturation. Et accessoirement, d'ailleurs, Josué, ça veut dire en hébreu Yeshua, c'est la même chose que Yeshua, ça veut dire le sauveur. Et en grec, Julie, Josué, c'est soter, celui qui sauve, sozo, donc celui qui guérit, qui sauve, qui délivre. Donc Josué, c'est celui qui guérit, qui sauve, qui délivre. C'est tout ça. Et le Seigneur nous a revêtus de sa justice à ce moment-là. Et on est encore dans cette phase de maturation. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est dans un temps d'alignement. Très important, un temps d'alignement et on s'aligne avec celui qui est immuable, qui ne change pas, qui ne varie pas, en qui il n'y a pas d'ombre ni de variation, Dieu. Donc tout ce qui n'est pas en phase dans nos vies, on le met, et c'est un temps d'alignement, alors ça secoue pas mal, ça remue pas mal, ça, c'est bien de comprendre un peu ce qui se passe. Il nous aligne avec lui parce qu'il y a la suite, quoi. Alors on va un petit peu expliquer comment ça se passe, qu'est-ce que ça veut dire s'aligner. Il y a énormément de facettes, mais on va voir un peu ce matin. Et on va commencer par une prière que tout le monde connaît, avant que je passe à Zacharie. La suite de Zacharie 3, c'est Zacharie 4. Mais avant, notre Père. Tout le monde connaît notre Père. Alors, je vais faire une version notre Père humaniste grec avec genre SketchUp, vous voyez ? Humaniste grec. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. OK, ça, c'est les préambules, c'est formule de salutation. Pas intéressant. Ah, ça devient intéressant. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, etc., etc. Et puis, nous, délivre-nous du mal. Ah oui, ça, on en a besoin, etc. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bon, je sais, j'ai dit pendant des années, étant petite, la prière que j'ai faite, je faisais mon chapelet, tout. Alors, je sais, hein, j'ai pratiqué, hein. Et en plus, je suis comptable. Donne-nous les sous d'aujourd'hui pour payer les salaires. On efface tout, on recommence. Version hébraïque. Notre Père. On s'arrête. Ouh, énorme. Pff, énorme. D'abord, c'est notre. C'est notre. C'est pas mon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas mon Père à moi. C'est notre, déjà, dimension collective, dimension de corps. On est un corps, on est une famille. Pater, en grec, père, c'est pater, c'est le dieu de toute famille, patria. En grec, patria, c'est la famille, et le père, c'est pater. Donc ça va ensemble, si vous voulez. Ça se sent pas en français, mais en grec, je peux vous dire, c'est ça. Hein. Ça va vraiment ensemble. On a un père, et s'il y a un père, il y a forcément une famille. Donc on est relié à une famille, notre. On n'est pas tout seul dans nos coins avec notre petite foi mystique, individualiste. Non. On est relié à une famille naturelle, spirituelle. On est une famille. Et on est dans une nation, etc. Et Dieu nous voit comme une famille. Ça, c'est la perspective de Dieu. Il nous voit dans une famille. Avec, bien sûr, une relation personnelle. Hein, ça n'annihile pas la relation personnelle. Mais il nous voit collectivement dans une famille. Et quand on va en Israël, on se rend bien compte qu'il y a une dimension collective très forte là-bas. Et nous, on a un peu perdu ça, parce qu'on est, voilà, humanisme grec. J'en profite. Voilà, donc on est dimension notre. Déjà, ça nous recadre, hein. C'est pas mon, c'est notre. Et père. Et père, alors rien que ça, alors pouvoir dire librement, on arrive tout de go comme ça, et on dit notre père, C'est fabuleux en soi. On a un accès direct auprès du Père. Et comment on l'a, cet accès ? Eh bien, on l'a par le sang de Jésus, il n'y a que ça. Hein. C'est revêtu de la justice de Christ qu'on peut aller directement. On le voit les déchirer, l'accès est libre, on y va avec assurance. Et il y a Jean 20, verset 17, Jésus dit « Va vers mes frères, dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Il y a une joie intense de Jésus parce que son Père est devenu aussi notre Père. « Va vers mon Père et votre Père. » C'est fort la joie de Jésus, il a acquis ce libre accès auprès du Père par son sacrifice et c'était un des objectifs essentiels de son sacrifice, c'est nous restaurer la relation avec le Père. Donc, et le Père, ça donne l'identité, il nous donne la sécurité, il nous donne la protection, tout ce qu'on a vécu dans le temps d'adoration, c'est pour nous, quoi. Vous regardez cette magnifique peinture, là, c'est nous. C'est notre position, on a un accès auprès du Père et on est absolument en sécurité dans les bras du Père. Et ça, c'est permanent. Et je voyais dans l'esprit quand Luc, à Colmar, à 8h30, pas trop réveillé, va y aller. Et le Père est là. Et il demeure en lui, en plus. Le Seigneur a dit, je demeurerai en vous et mon Père demeurera en vous. Donc il y va avec toute la Trinité, plus les anges habituels de son ministère, il en a des gros, grands, plus une escouade spéciale parce que toute l'Église prie pour lui. Donc je veux dire, c'est l'armada, quoi. Donc Luc, tu sais que tu as une armada qui va avec toi, et d'abord la Trinité, plus le lion de Juda qui rugit derrière, enfin je ne vous dis pas moi, attention, hein, franchement en face moi j'aurais vraiment peur, hein. Les hyènes elles vont faire caille, bon ça c'est la perspective de Dieu, donc notre Père c'est déjà énorme. Rien que là, on pourrait faire peut-être des heures et des heures d'adoration, de louange, vous voyez, c'est énorme, quoi. Notre Père. Et d'ailleurs, on a une chrétienne catholique, hein, qui a été un petit peu récupérée par quelque chose de religieux, mais c'était une femme de foi, une femme ardente, c'était Thérèse de Lisieux. Elle s'arrêtait là, et puis elle passait toute sa journée en adoration, en méditation. Notre Père. Point. On peut rester des heures et des heures là-dedans. Bon, on va quand même passer à la suite, parce que c'est un message, il ne faut pas durer trop longtemps et tout. Qui est aux cieux ? Oh, stop ! Qui est aux cieux ? On arrête. Qui est aux cieux ? Qui est dans les lieux spirituels ? Qui est dans les lieux spirituels ? Ah ! Qui est dans les lieux spirituels ? Ah ! Et nous, on est où, là ? Notre Père est dans les cieux. Et nous, on est où ? Alors, on va prendre Éphésiens. Éphésiens, on peut le projeter, non ? On peut pas. Éphésiens 1. Alors, Éphésiens 1, il nous dit au verset 20. Éphésiens 1. 20-21, le Père, donc, a ressuscité Christ d'entre les morts. Il l'a fait asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Donc, 1 Éphésiens 20-21, la position de Christ, le Père l'a fait asseoir à sa droite, dans les lieux célestes. Ah ouais, et on passe après à Éphésiens, juste le chapitre d'après, 2-6. Eh bien, c'est la même chose. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, il y a une répétition, la position de Christ, eh bien, c'est la nôtre aussi. Il nous a ressuscités, c'est comme le « notre », c'est « ensemble ». Éphésiens, ensemble, deux fois dans le verset. C'est pas moi personnellement, hein, c'est toujours cette dimension communautaire très forte dans la perspective du Seigneur. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Donc il y a une dimension communautaire et il y a la dimension qu'on est dans les lieux célestes. On est dans les mêmes lieux que le Père, quoi. On est dans les lieux célestes et on est assis. Bon, assis, ça parle d'une position de repos et d'une position d'autorité. Donc, là où est Christ, on est. Tout ça par la justice. Hein, le point de départ, c'est la justice acquise par le sang de Christ. Donc, on est là. On est dans les lieux célestes. Ce qui veut dire que si on est dans les lieux célestes, on doit tout regarder du point de vue céleste. Vous êtes d'accord ? On ne va pas quand même pas s'amuser à voir les choses du point de vue terrestre, alors que la Bible nous dit qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Ça ne va pas, ça ne colle pas, ça. Alors, notre position céleste, elle est où ? On passe à Apocalypse 4. Apocalypse 4, c'est là qu'on est. Je regardais, une porte ouverte dans le ciel. La porte, elle est ouverte, hein, avec le sang de Jésus, c'est fait, l'accès est direct. Monte, je te fais voir ce qui doit arriver dans la suite. Monte. C'est-à-dire, va dans les lieux élevés, c'est là ta place. Va dans les lieux élevés. Va dans les lieux spirituels. Aussitôt, je fus ravie en esprit. Je fus en esprit. En fait, le mot exact, c'est « je fus en esprit ». Vous voyez, on est dans la dimension de l'esprit et on voit ce qui se passe dans les lieux célestes. On est dans la salle du trône, si vous voulez. On est dans la salle du trône. Et puis, et si vous regardez tout le chapitre 4, donc c'est toute la dimension de la salle du trône, c'est là qu'on est, c'est notre place. Ce n'est pas un hypothétique avenir, parce que Apocalypse, dans notre tête, c'est souvent « ça va se passer dans longtemps ». Mais non, Apocalypse, ça veut dire révélation. On enlève le voile. Apocalypse, on enlève le voile qui nous voile ce qui se passe dans les lieux spirituels. Mais on y est. Dans la salle du trône, on y est. Et on n'y est pas que le dimanche matin quand on est en pleine adoration. Je crois que c'est notre. On est appelé à y être tout le temps. Alors on y est. Et puis, quelle est la première chose que disent les quatre êtres vivants, verset 8 ? Ils ne cessent de dire jour et nuit. C'est la première chose qui est dite, qui est rapportée de ce qui. Les paroles dites dans les lieux célestes, Apocalypse 4, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est, qui vient. Saint, 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 notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » La première chose que disent les êtres vivants, « Saint ». Et nous, c'est pareil, on s'aligne. Hein, on est dans les lieux célestes, dans les lieux spirituels, et on dit « Saint ». Saint est le Seigneur. Vous voyez, on s'aligne. Que ton nom soit sanctifié. Et en fait, que ton nom soit sanctifié, ça veut dire qu'il y a une passion pour la sainteté de Dieu. C'est une passion, il y a un zèle, il y a un amour, il y a une passion qui sont dans le cœur de Dieu pour nous et que le Saint-Esprit veut mettre dans notre cœur à nous pour lui. Parce que c'est un échange, c'est une relation. Hein. Et il y a cette passion qui est là, que ton nom soit sanctifié. Et c'est pour ça que les chants d'adoration, les chants du trône, je crois qu'il va y en avoir de plus en plus, parce que progressivement, l'Église, elle s'aligne sur l'atmosphère du ciel. Et je vous répète, c'est pas réservé au dimanche matin, c'est pas réservé au temps d'onction, et puis dans la semaine, on galère, parce que voilà. Vous pouvez mettre un CD dans la voiture, vous faites votre petit trajet pour aller au boulot, au travail, et puis vous êtes dans les salles du trône, il n'y a aucun souci. Vous pouvez éplucher vos carottes, préparer votre ossobuco du midi, et puis être dans la salle du trône. Vous voyez ce que je veux dire ? Le naturel est appelé à devenir, le surnaturel plutôt, est appelé à devenir complètement lié au naturel. C'est ça notre position. Et le Saint-Esprit va nous conduire à dire tu es là, tu es dans les lieux célestes, tu es assis dans les lieux célestes, vas-y, tu es là. L'accès est direct auprès du Père. Et puis, vous voyez, ça va être de plus en plus naturel. On va à Leclerc, on va à Super U, et puis on est dans la salle du trône. Et puis, voilà, je veux dire, c'est. Je crois que le Seigneur va vraiment nous enseigner pour que ça soit naturel. C'est notre héritage, c'est notre position. Et par contre, le gros enjeu, c'est d'y demeurer. C'est d'y demeurer. Et alors là, il y a quelque chose qui m'a... Par rapport à cette confrontation des lieux spirituels et puis de ce qu'on vit sur Terre, là, j'aurais vraiment insisté là-dessus. Parce que, voilà, on va prendre plusieurs passages qui montrent qu'il y a une grosse, grosse, grosse différence, mais il ne faut pas se tromper d'endroit. Alors, on va prendre, par exemple, la résurrection de Jésus. À la résurrection de Jésus, c'est Luc 21, 26, 28, il y en avait qui étaient morts de peur, morts de peur. Le même événement, il y en a qui ont été complètement pulvérisés par la peur. C'est qui d'abord ? Personne ne voit ? Ah non, c'est pas ce que je voulais. Ouais, c'est à la résurrection de Jésus, donc les gardes. Les gardes, ils ont dit qu'ils sont tombés, presque, enfin, vous voyez, paralysés par la peur. Et le même événement a été une source de joie intense chez les disciples. Vous voyez, la même chose. La résurrection de Jésus, d'un côté, c'était une peur énorme, de l'autre côté, une joie incroyable. Et puis le Seigneur qui dit, soyez sans crainte, etc. Vous voyez, le même événement. Après, on reprend dans Luc 21, 26, 28. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissants des cieux seront ébranlés. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et gloire. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous, levez la tête parce que votre délivrance approche. Vous voyez la confrontation ? Et là, on était avec un parent d'élève d'origine italienne, il nous disait qu'en Italie, il y a une recrudescence énorme des infarctus. Parce que les gens, ils meurent de peur, ils meurent d'angoisse, ils meurent de stress, vous voyez ? Ça, c'est la vérité de ce qui est dans le monde. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui se viendra sur la terre. Il y a une angoisse qui monte sur la terre. Ça monte, ça monte, ça monte. Mais Dieu nous dit, redressez-vous, levez la tête, votre délivrance approche. Alors, est-ce qu'on va se calquer sur l'angoisse montante ou est-ce qu'on va se calquer sur ce que Dieu dit ? Et un dernier passage, toujours dans cette même... C'est Apocalypse 18, 19, 20. Alors, Apocalypse 18, 19, 20, quand je dis c'est Apocalypse, c'est, on est dedans, quoi. Hein. C'est pas dans un avenir dans longtemps, longtemps, longtemps. On est en plein dedans. Alors, Apocalypse 18, 19. Alors, on a... une lamentation, mais alors générale. Ils jetaient la poussière sur leur tête, les marchands de Babylone, vous savez. Ils pleuraient, ils disaient « Malheur, malheur, la grande ville !» Tous les systèmes économiques, financiers, où se sont enrichis par son opulence, tous ceux qui ont eu des navires sur la mer, en une seule heure, elle est devenue un désert. Donc, verset 19, grosse lamentation. On l'a, hein, Apocalypse, ouais. Une énorme lamentation. Et le verset 20, qu'est-ce qu'il dit, le ciel ? Réjouis-toi sur elle, ciel, vous aussi, les saints, c'est nous, hein, les apôtres, les prophètes, car Dieu vous a fait justice en jugeant. Donc, d'un verset à l'autre, on passe d'une lamentation énorme à une réjouissance intense. On va choisir quel camp. Ce serait quand même le comble que nous, les saints, ceux à qui Dieu dit « réjouissez-vous », on se lamente avec la terre. Ce serait complètement hors de saison. Hein ? Donc, quand vous écoutez France Info, Babylone, TF1, Égypte, vous ne laissez pas impressionner, quoi. Ne vous laissez pas impressionner. La bourse casse la figure, les systèmes économiques vont mal, et notre retraite. Et alors, il y a cette angoisse qui monte, et vous la palpez, l'angoisse, elle est là autour de nous, l'angoisse, l'angoisse, l'angoisse. Les médias, ils nous bombardent d'angoisse. Attendez, ce n'est pas notre héritage, l'angoisse. Le Seigneur dit, au contraire, réjouissez-vous. Alors, parlons-en de la retraite. Alors, les gens, c'est vrai, il y a une angoisse pour l'avenir, une crainte de manquer, enfin, il y a plein de craintes. Moi, j'ai fait une fois un rêve, et puis le Seigneur m'a montré comment ça pouvait se passer dans l'avenir, quoi. Je voyais des sœurs. Je sais, elles ont tout petit salaire, tout petit revenu, et puis normalement, la retraite, ça va être tric-crac, hein, vraiment, rien du tout, quoi. Et dans mon rêve, elles recevaient subitement des grosses sommes, quand je dis des grosses sommes, des dizaines de milliers d'euros, dans mon rêve, hein. Alors je disais, mais Seigneur, c'est quoi ce truc ? D'où ça sort, ça ? Et puis c'était simplement la dîme d'un bien immobilier vendu. Le Seigneur avait dit au propriétaire, tu donnes la dîme à ces personnes-là, voilà, tu honores ces sœurs, point, voilà. Donc je veux dire... Ne nous inquiétons pas, le Seigneur a énormément de ressources, pas seulement les dîmes des biens immobiliers, mais aussi d'autres choses. Quoi. Ne craignez pas, alignez-vous sur le ciel. Et ça veut dire aussi, d'une manière très pratique, que peut-être que quand on est en voiture et quand il pouf, France Info, peut-être que le Seigneur va nous dire, écoute, tu peux mettre un peu Radio Ciel pour changer, là. Parce qu'à force de trop écouter France Info et compagnie, peut-être que tu perds la bonne fréquence, voyez. Donc équilibrons un peu les choses et surtout, alignons-nous sur ce que dit le ciel. Parce que le ciel, il se réjouit, quoi. Et puis franchement, quand on voit les marchands de Babylone, verset 13 de 18, on voyait qu'ils vendent aussi des corps et des âmes d'hommes. C'est révoltant, quoi. Hein. Donc que les systèmes babyloniens soient un petit peu secoués, même qu'ils tombent par terre, c'est très bien. Et pour un exemple historique, quand le régime nazi s'était écroulé à Berlin en 1945, il y a des familles de grands dignitaires nazis qui ont choisi de se suicider. En famille, hein, femmes, enfants, tout le monde, parce que pour eux, c'était, ils ne pouvaient rien avoir après le nazisme. Ils ne pouvaient rien y avoir, c'était plus possible. La vie ne cessait, quoi. Est-ce que la vie va cesser après l'écroulement de tous les systèmes économiques iniques ? Non, bien sûr que non. Il y a un avenir. Alors, le monde ambiant, les médias veulent nous faire croire qu'après, c'est le chaos, c'est la destruction, c'est l'horreur. Il y a un avenir. Et c'est pour ça que c'est très, très important de nous focaliser, d'être en accord avec ce que dit le ciel. D'abord, ça nous donne le moral, ça nous donne la force, ça nous donne la joie, l'adoration. On respire l'atmosphère du ciel, vous voyez ? Dans l'adoration, dans la louange, on respire à plein poumon l'atmosphère du ciel et elle est autrement plus tonique et revitalisante que les miasmes morbides des terrestres, des milieux. Donc c'est très important de se remplir. C'est pour ça que les temps d'adoration collectifs, en plus, sont hyper importants. Donc je fais la pub à Tabernacle le 9 décembre, ici, 4 heures non-stop. Alors là, vous prenez une grosse dose d'air, et puis franchement, ça fait du bien. Et s'il y a des petites pollutions dans vos poumons qui sont restées, ça dégage. Ça dégage, franchement. Donc c'est très important. Donc on en était à que ton nom soit sanctifié. Et puis après... je continue quand même. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. C'est les noces de l'agneau. Il y a donc l'atmosphère du ciel actuellement. c'est une grande, grande, grande réjouissance. C'est la joie. C'est la joie. Enfin, le royaume des cieux, il est en train d'envahir la terre. C'est glorieux, c'est magnifique. Alors, franchement, refusons les angoisses et spécialement toutes les craintes. Alors, c'est vrai que, comme je disais actuellement, le Seigneur est en train de tout ébranler et il met en lumière dans nos vies tout ce qui n'est pas aligné avec lui. Alors, évidemment, ça, c'est perturbant, c'est dérangeant, c'est inconfortable. Alors, par exemple, on avait eu en janvier 2011 un message de Rusty. Et Rusty, il avait dit, il avait vraiment, c'était excellent, il nous avait dit la différence entre la pensée grecque et la pensée hébraïque. La pensée grecque, on se met tous au centre, vous savez, c'est nous, nous, nous. Pensée hébraïque, Seigneur, qu'est-ce que tu vois? Comment tu vois cette situation? Et je vous assure, hein, depuis janvier, je pratique là, c'est excellent parce qu'on est dans le repos. C'est pas nous, 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 on doit faire pour qu'il se passe des choses. Seigneur, tu vois comment la situation? Tu fais comment? Tu dis quoi sur la situation? Et puis on s'aligne. C'est ultra reposant. C'est le repos de la foi, c'est reposant, ça vous change la perspective. Donc, il avait dit aussi, demandez un peu au Seigneur ce qui le dérange en vous, ce qui l'empêche d'accomplir ses plans en vous. Alors, j'avais obéi, docilement, j'avais pratiqué le message, c'est bien de pratiquer le message. Seigneur, qu'est-ce qui te déplaît en moi? Enfin, j'avais, oh là là, tchoum, instantanément, la réponse. Ah. Alors, je peux vous le dire, c'est pas confidentiel, parce que je crois que beaucoup de gens sont concernés, spécialement les dames. Les craintes. Ah, évidemment, la parole tranchante, l'amour parfait bannit la crainte. Ah oui. Ouh, ouh. Et alors, les craintes, parce que il y en a, hein. La crainte de manquer, la crainte de l'avenir, la crainte de perdre un être cher, la crainte de ne pas y arriver, la crainte de... Enfin, vous voyez les dames, hein, mais les messieurs peut-être aussi. Il y a plein de craintes, partout, partout, partout. Et le Seigneur, il te débusque les craintes et dit, hep, là, tu t'alignes, hein. Genre, vous voyez, des exemples très pratiques, concrets de comptables. Pof, un recommandé arrive. Bon. On revenait à peine d'Israël, vous savez, rempli de gloire et de joie et tout. Pof, recommandé. Un scud, un missile. Vous êtes convoqué au prud'homme. Hein? Juste au retour d'Israël. Alors, ce qui est super, alors on dit, ah, Seigneur, tu vois quoi, toi? Comment tu vois la situation? Vous voyez, c'est reposant. On dit, hé, le lion, là, tu fais quoi, là? Bon, tu rugis, très bien, ça me va. Et puis, quand vous voyez, quand vous êtes dans des situations, je ne sais pas, au travail, rien ne va bien, ou dans votre famille, rien ne va bien, etc. Vous dites, Seigneur, tu fais quoi, là? Tu vois quoi? Et c'est là que, comme dans Ézéchiel 37, le Seigneur, il va dire, pas de problème, prophétise. Prophétise. Il y a plein d'ossements desséchés, c'est bourré de mort, là, t'as vu, c'est plein de destruction et de mort. Prophétise. Vous voyez, le lion, il est jamais, le Seigneur, il est jamais découragé, il est jamais submergé, il est jamais dépassé par les événements. Et plus on adore, et plus on voit à quel point il est absolument souverain. Il est vraiment, vraiment souverain. Et complètement en contrôle. Et c'est dans l'adoration qu'on reçoit ça, parce qu'on est dans la salle du trône, et on voit évidemment qu'il tient tout en main et que tout est sous son contrôle. Alors, c'est vrai qu'il met en lumière tout ce qui ne va pas. Alors, j'avais parlé des craintes. Alors, je rajoute un peu tout ce qui ne va pas, parce que c'est vrai qu'en ce moment, le Seigneur est en train de tout remonter. Ça remonte des profondeurs de notre âme. Alors, les craintes, après, la honte, la culpabilité, le sentiment d'indignité, le sentiment d'incapacité, l'amertume. Alors, la jalousie et l'esprit de victime, ça a été traité, les derniers cultes, par Janet et Rusty. Et ceux qui n'étaient pas là, il faut écouter l'enregistrement, parce que jalousie et esprit de victime, c'est vraiment des choses importantes à traiter. C'est sur le site, voilà. Après, ah oui, il y a aussi les souvenirs douloureux. Souvenirs douloureux. Alors, soit des choses, par exemple, je parlais des recommandés. Hein. Si vous avez vécu des situations financières difficiles, avec menaces d'huissier, tout et tout, moi je sais, j'ai vécu, je sais, eh bien, quand vous voyez un recommandé, vous savez, le souvenir, il remonte tchoum, en flèche. Le scénario catastrophe, vous l'avez blindé dans les yeux. Vous voyez, ça veut dire que votre mémoire, elle a besoin de guérison. Alors, les souvenirs, ils remontent. Ça peut être aussi des relations douloureuses avec des proches ou des gens de la famille ou des amis. Et c'est comme les eaux de Marah, des eaux profondes, amères. C'est le Marah de nos âmes, ça. Et il faut que ce soit lavé, enfin purifié. Et bien sûr, il faut la croix, le bois de la croix, la croix de Jésus. Et c'est un processus, hein. Et là, quand des choses profondes comme ça remontent comme ça, comme Marah, là, les amertumes profondes de l'âme qui remontent, il faut absolument traiter. Parce que Dieu, ça veut dire que si ça remonte, le Seigneur dit... C'est le moment, vas-y, prête. Et la pire chose, ce serait d'essayer de camoufler ça, de réenfoncer la chose. Ça remonte et puis vous ne voulez surtout pas voir. Alors là, c'est la pire chose à faire. Parce que de toute façon, un jour ou l'autre, ça va remonter et fort et peut-être en faisant plus de dégâts. Donc il faut absolument, dans ces temps d'alignement, être honnête, être vulnérable, être transparent avec Dieu. Mais ça coûte parce que ça fait mal. Hein. Et quand le Seigneur opère, ça fait mal. Alors je voudrais qu'on prenne Lamentation 3, verset 19-20. Lamentation 3, 19-20, dans ces temps de traitement et de remontée des souvenirs difficiles. Donc, Lamentation. Hop, hop là, là. Ben, il est peut-être là. Voilà. Mais dans la Thompson, c'est mieux. C'est pour ça que là, il n'est pas trop bien traduit, là. Alors, Lamentation 3. Oui, c'est ça. Donc, quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, donc ça, c'est les souvenirs douloureux, hein. Ça fait comme du poison dans notre vie, du poison dans notre âme, hein, absinthe et poison. Alors, c'est le verset 20 qui va, la suite, ça ne va pas. Mon âme s'en souvient bien, elle est abattue au-dedans de moi. En fait, il y a une traduction, enfin non, l'original hébreu, c'est beaucoup mieux que ça. Moi, personnellement, ça me touche beaucoup plus, parce qu'une ancienne traduction dit que le texte primitif, amendé par les scribes par respect pour Dieu, disait... Ton âme s'en souvient bien et elle s'est penchée sur moi. Ton âme, c'est-à-dire Dieu, hein. C'est mieux quand même, hein. Ton âme s'en souvient et elle s'est penchée sur moi. Il y a une sollicitude de Dieu par rapport à ça. Moi, je trouve qu'elle est super. Ce sera l'hébreu originel, hein. Ton âme s'en souvient, elle s'est penchée vers moi. Donc Dieu se penche sur notre misère, sur notre absinthe, sur notre poison. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, c'est pourquoi j'espère. Les bontés, les bienfaits, les bienveillances de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent. Chaque matin, grande est ta fidélité. Donc, le Seigneur, il veut traiter les choses profondes, les couches profondes de notre âme qui sont empoisonnées. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et parfois, il faut vraiment tout un processus. Je ne sais pas si vous avez parlé de l'hémofiltration. L'hémofiltration, c'est-à-dire, c'est un processus... infirmier, là, médical, on vous enlève le sang qui est plein de pollué, empoisonné, on vous enlève tout le poison et puis on remet votre sang bien comme il faut. Donc ça veut dire, traduction, on garde notre identité, notre sang c'est nous, quoi. On regarde notre identité, notre vie, simplement le Seigneur il enlève le poison. Et parfois c'est un processus qui met du temps. Hein. Je sais, j'y suis passée au mois de juin, le Seigneur a fait remonter l'union, une relation douloureuse qui n'était pas du tout traitée. Et puis voilà, je suis passée à l'hémofiltration. C'était un processus de plusieurs semaines quand même. Et puis, mais il a fallu aussi l'aide des sœurs. Et il ne faut surtout pas rester seule quand on est dans un processus comme ça. Il faut vraiment, vraiment partager, demander la prière, voyez. En tout cas, ne pas gérer tout seul parfois certaines choses. Donc on est dans ce temps. Et le Seigneur, c'est par amour qu'il fait ça, parce qu'il veut vraiment qu'on soit... Il n'y a rien qui nous empêche de nous aligner. Et vraiment, il y a une bonté de Dieu dans ce processus. Parce que Dieu veut nous libérer de tout ce qui peut nous entraver, tout ce qui peut nous empêcher de nous aligner avec lui. Et en plus, parfois, ça pollue notre vision. Et c'est très, très important d'avoir une très, très, très bonne vision. Alors, pourquoi il fait tout ça? Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Il faut avoir la vision. Hein. Comme je l'ai dit, on est une église de vision. Et si, c'est capital d'avoir la vision. Comme je l'ai dit, après Zacharie 3, eh ben, il y a Zacharie 4. Et Zacharie 4, c'est glorieux. C'est franchement glorieux. Zacharie 4, si on peut le prendre... Zacharie 4, on ne va pas le lire en entier, mais c'est un chapitre extraordinaire, merveilleux. Zacharie 4, c'est les deux oliviers qui alimentent le chandelier d'or, la menorah, vous voyez. Et puis c'est là que vous avez ces versets fabuleux. Ce n'est ni par puissance, ni par force, par mon esprit. Donc c'est le temps de la construction aussi. Alors si vous voulez, Zacharie 4, pour imaginer, il y avait toute une équipe de ministères, dans le naturel, hein, à Jérusalem. Donc, il y avait Zacharie, c'est le prophète. Hein, okay. Après, vous aviez, en même temps, hein, dans la même période historique, vous aviez Josué, souverain sacrificateur. Vous aviez Zorobabel, gouverneur, c'est-à-dire l'autorité royale. Et vous aviez aussi Agé. Tous ces gens-là, c'était là exactement en même temps, et même ils travaillaient ensemble avec Esdras. Donc, imaginez l'équipe de choc qu'il y avait quand même. Hein. Esdras, Zacharie, Agé, comme prophète, Zorobabel, Josué, tous ensemble, et pour rebâtir le temple. Et donc, il y a ces deux oliviers, et ces deux oliviers, alors on peut prendre verset 12, qui sont les deux rameaux d'oliviers qui sont près des deux tubes d'or d'où découle l'or? Il me répondit, ne reconnais-tu pas ce qu'ils sont? Je dis non, mon Seigneur. Il dit, ce sont les deux oints la traduction exacte, ce sont les deux fils de l'huile fraîche, de l'huile nouvelle fraîche. Oui. Les deux fils de l'huile nouvelle fraîche qui se tiennent debout devant le Seigneur de toute la terre. Et les commentateurs bibliques disent que ces deux oints, ça représente d'une part Zorobabel, d'autre part Josué. En clair, ça représente l'onction sacerdotale et l'onction royale. Et ça, c'est pour nous. C'est nous. Donc, si vous voulez, c'est notre héritage, c'est ce que Dieu veut pour nous, qu'on ait cette double onction, onction sacerdotale et onction royale. Alors, onction sacerdotale, ça veut dire quoi ? Enfin, sacrificature, il y aurait des messages énormes à faire sur la sacrificature. Hein. Mais sacrificature, je donne juste quelques indices. Et c'est valable pour chacun de nous, chacun des saints, parce que le Seigneur a dit dans 2 Pierre, je crois, il a dit, vous êtes un peuple de rois et de sacrificateurs. Hein. Donc c'est chacun de nous, il n'y a pas de hiérarchie là. Chacun de nous est roi et sacrificateur. Et chacun de nous est appelé à être une porte par laquelle toutes les ressources du ciel sont libérées là où on est. Lieu de travail, école, famille, toutes les ressources du ciel, on est une porte. On est sacrificateur. Et aussi, très très important, face à des situations de péché, de mort, de destruction, on se tient à la brèche et on plaide le sang de Jésus. On s'identifie au pécheur. Que ce soit une personne, que ce soit une ville, que ce soit une nation, on s'identifie. On dit, on plaide le sang de Jésus pour les péchés de notre peuple. C'est ça, la sacrificature, c'est hyper important. Dans ces temps où le Seigneur est en train de juger, il cherche des gens qui se tiennent à la brèche. Ils cherchent des sacrificateurs, ils cherchent des intercesseurs qui disent « on se tient à la brèche et on plaide pour le sang ». Actuellement, on plaide le sang pour notre nation. On plaide le sang pour Guebwiller, on plaide le sang pour notre famille. Et on proclame la parole de Dieu. Donc l'onction de sacrificature, elle est extrêmement importante. Et rappelez-vous à Aaron, quand il y avait une plaie de mort qui voulait exterminer les Hébreux, et Aaron s'est tenu à la brèche. Et il a arrêté la plaie. Ou aussi quand les Madianites avaient entraîné les Israélites dans le péché. Et puis, vous avez Phiné, il a arrêté aussi la plaie. Il a exercé un jugement. Et il a arrêté la plaie. On est là pour arrêter les plaies. On est là pour arrêter le jugement. Donc c'est vraiment, vraiment important. Recevoir la parole de Dieu, proclamer la parole de Dieu sur la situation. Et ça, je vous dis, c'est très concret, hein. Franchement, c'est concret. Vous avez une situation de mort en face de vous, par exemple Timothée, là, à un moment donné, c'était quand même pas évident, hein. Et bien on la proclame la vie, on reçoit des paroles de Dieu, on dit la vie sur Timothée, on dit ce que Dieu dit sur la situation, mais on n'accepte pas la fatalité. Alors celle-là, hein, celle-là, on la déracine. Les élèves de seconde, ils savent. La fatalité, le fatalisme, tout ce qui est dans les tragédies grecques, hein, Racine et compagnie, qui est dans notre culture française, la fatalité, c'est enraciné, c'est là. Eh bien, on le déracine, je peux vous dire. Hein. Il n'y a aucune... Alors là, j'écris en gros sur ma feuille. Il n'y a pas de fatalité, c'est un mensonge. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il a cloué un spectacle. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y en a pas. L'islam est bourré de fatalisme. Il n'y en a pas de fatalité, c'est un mensonge. Tout est accompli, tout est racheté. C'est notre héritage. Alors là, et Seigneur, s'il te plaît, montre là, les petits relents de fatalisme qui traînent dans les coins de nos vies, là. On se résigne, on accepte. Ah ben c'est comme ça, je suis comme ça. Seigneur, tu dégages ça et puis il n'y a pas de fatalité. Voilà, je dis ça parce qu'on en a une grosse dose culturellement. Et voilà, donc pas de fatalité. Tout est racheté. Comme dit le Seigneur dans la cabane, j'explique rien mais je rachète tout. Enfin, en tout cas, il rachète. C'est l'onction de... Donc nous, c'est l'onction de sacrificature. Devant une situation désespérée, on plaide le sang, on appelle la vie, on n'est jamais découragé, voilà. Et puis après, vous avez la deuxième onction, l'onction de Zorobabel, prince de Juda, gouverneur, et ils travaillaient ensemble à la reconstruction du temple, donc onction royale, hein, onction de gouvernement. Il paraît que 12, c'est le chiffre du gouvernement, 2012, ça va être quelque chose, hein. Gouvernement, pas fin du monde, hein. Fin d'un monde, des ténèbres, et gouvernement d'église. Et puis, ne craignons pas les élections, de toute façon, c'est l'église qui gouverne. C'est l'Église qui gouverne, a dû affronter l'opposition. Et tous les reconstructeurs, ils affrontent une opposition. Esdras 4, vous le voyez, ils affrontent vraiment l'opposition. Ils affrontent l'intimidation, ils affrontent enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'attaques. Mais ce qu'on voit dans Esdras, donc cette même époque que Zacharie 5, c'est qu'il y avait une équipe extrêmement unie, complémentarité des dons, des onctions, des ministères, et il y avait une passion, vraiment une passion pour Dieu, une passion pour reconstruire, une passion pour bâtir. Actuellement, non, il y en a parmi nous qui ont vraiment une passion, puis pas, on est beaucoup à avoir cette passion. On veut rebâtir le temple, c'est-à-dire une présence de Dieu continuelle, 24 heures sur 24. On veut bâtir la présence de Dieu. Moi, je rêve, je vous le partage, je rêve que la présence de Dieu, elle submerge l'école. pas que l'Église ici, mais que ça submerge l'école, que les classes soient remplies de la présence de Dieu, même quand on étudie le discours indirect libre. Vous voyez que ce soit submergé de la présence de Dieu, tout le temps. Voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et puis, donc, onction royale, onction sacerdotale. On est appelé à gouverner, mais gouverner avec un cœur vraiment humble, un cœur de compassion, un cœur de serviteur, évidemment. Évidemment. Pas le domination, etc. Je rappelle, l'onction, enfin l'autorité, elle protège, elle conduit et elle pourvoit. Voilà. Alors, le Seigneur nous prépare à faire partie d'une armée extraordinaire. C'est ça ce qui est devant nous. Hein. Ça vaut le coup de s'aligner. Alors, une armée alignée d'une manière extraordinaire, c'est Joël 2. Je vous le lis, c'est trop, trop bien. Et puis, c'est pour nous, quoi. Joël 2. Allez, on est près de la fin. Hop. Joël 2, l'armée de la fin des temps. Oula. Alors, Joël 2, alors, c'est nous, hein, c'est nous. Et le Seigneur va le faire, il est à l'œuvre, il va le faire. À partir du verset 5, on dirait un bruit de chars qui bondissent sur le sommet des montagnes, on dirait le bruit de la flamme du feu qui dévore le chaume. Le chaume, ça nous parle de tout ce qui est charnel, hein, le bois, le foin, le chaume, tout ce qui est de la chair, tout ce qui est des concepts humains, on le dévore. Il dévore le chaume. Le feu de Dieu, c'est le feu de la présence de Dieu. On dirait un peuple puissant rangé en bataille. Devant eux, les peuples tremblent. Devant eux, les peuples tremblent. Tous les visages pâlissent. Ils courent comme des héros. C'est nous, hein ? Et puis même si on n'était pas des héros avant, la puissance de Dieu fait qu'on devient des héros. Voilà. Ils courent comme des héros. Ils escaladent une muraille. Toutes les choses impossibles, vous savez, les grosses murailles qui sont devant nous, tu peux pas. Si, on peut, on escalade. Ils escaladent une muraille, comme des gens de guerre. Chacun va son chemin, ils ne quittent pas leur route. Nul ne bouscule son voisin, du genre, pousse-toi, je veux prendre ta place. Non, c'est fini ça. Non, chacun sait exactement son identité, son appel et tout ça, chacun est ordonné. Nul ne bouscule son voisin, chacun suit sa voie. Ils se ruent au travers des projectiles. Ça, c'est nous au Collège Daniel. Il se rue au travers des projectiles, ce n'est pas ça qui va nous arrêter. De toute façon, on a un énorme bouclier para-scud. Et il se rue au travers des projectiles sans rompre les rangs. On reste unis, groupés, reliés les uns aux autres, les boucliers de tous les côtés, et on avance. Et puis, ils fondent sur la ville, hein, et voilà, on investit la société, court sur la muraille, escalade les maisons, entre par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre frémit, le ciel est ébranlé, le soleil et la lune sortent curcir, les étoiles perdent leur éclat. L'Éternel donne de la voix devant son armée, je dirais même que c'est un rugissement de lion. Son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand, redoutable, qui pourra le supporter ? Et avec ça, je ne vais pas lire, mais c'est pareil, c'est le psaume 149. Hein. C'est les captifs sont libérés, l'huile de guérison coule partout. Et puis, ce qui est super, c'est que cette armée, c'est des gens qui viennent de pas grand-chose. Hein. Vous savez, c'est comme les vaillants guerriers de David qui venaient tous, ils avaient plein de problèmes, ils étaient bourrés de dettes. Ce n'étaient pas des notables. Hein. Et puis, je vais terminer, je m'appelle Anne, pour ceux qui ne savent pas. Donc, je m'appelle Anne, et c'est trop bien parce qu'il y a la Anne. Ah oui, il y a deux choses. Dans la Anne, vous avez la Anne du Nouveau Testament. Celle qui, alors que Hérode avait pour lui, c'était la pire tuile qui lui tombait dessus, la naissance d'un roi. Alors, Hérode, très, très en colère, très mécontent, vous voyez, ça, c'était la version du monde, hein, Hérode, très, très en colère. Et Anne, elle dit à tout le monde, hey, il est né, enfin, formidable, etc. Vous voyez, la joie. On a de nouveau cette confrontation joie et colère, ténèbres. Et puis, la Anne de l'Ancien Testament, la mère de Samuel. Alors là, je suis presque au bout. Hein. Anne, 1 Samuel, c'était pour dire que chacun de nous, il y a un grand, grand, grand destin devant nous. Et justement, plus on a eu de problèmes, plus on n'était pas bien. C'est verset 1, chapitre 2, 1 Samuel, chapitre 2, verset 8. « De la poussière, il redresse l'indigent, le misérable, le nul, le pas doué. Du fumier, il relève le pauvre pour les faire siéger avec les notables. Il leur donne en héritage un trône de gloire, car l'Éternel, à l'Éternel sont les colonnes de la terre et sur elle qu'il a posé le monde. » Il y a un très grand héritage devant nous. Et c'est aussi avec un cœur de compassion. Il y a une parole pour l'Europe qui avait été donnée, je l'ai dit à la fin. Elle date de fin 2005. Et on parle du gouvernement, donc on a parlé de l'autorité royale, l'autorité de Zorobabel. Établissez mon gouvernement sur l'Europe, disait le Seigneur à travers cette parole. Ne permettez pas à l'ennemi d'enfreindre les limites de ma grâce. J'appelle les responsables spirituels à l'unité. Apportez la clé de la grâce à toutes les nations. J'appelle les responsables spirituels à l'unité, ils s'assembleront grâce à ma voix. Travaillez ensemble dans la bonté, construisez des réseaux de miséricorde pour les multitudes. À travers Caleb, non, ça j'ai rajouté. À travers de la prière, des larmes, de l'amour, de l'humilité. Restez unis par mon esprit. Traversez des océans simplement pour vous servir mutuellement. Soyez compatissants envers celui qui est blessé et fatigué. Nourrissez du pain de ma présence ceux qui meurent de faim. C'est ce que disait Béné au début. Ce n'est pas seulement la faim naturelle, c'est aussi spirituelle. Ceux qui sont nus, on les couvre. Tels des ambassadeurs, parce qu'on appartient à un grand, grand royaume, ce royaume des dieux, portez mon onction dans les parlements, les palais, palais de justice y compris, Luc. Rencontrez les policiers, les pompiers, les personnels médicaux, les militaires, encouragez-les dans leur travail. Parlez aux professeurs pour restaurer une nouvelle façon de penser dans les classes, particulièrement en France. Je vais envoyer mes messagers, donc mes anges, pour qu'ils vous assistent. N'oubliez jamais comment danser, car du cœur de l'adoration coule la puissance et l'amour plein de grâce qui viennent d'en haut. Seigneur, on veut s'aligner sur ce que tu dis. On veut s'aligner sur tes projets qui sont immenses, qui sont grandioses et qui sont aussi qui découlent d'un cœur rempli de compassion pour l'humanité. Tu nous équipes pour que ton huile de guérison, ton huile d'onction, elle coule sur tous ceux qui sont blessés. Et que soit aussi ton huile d'intercession. Là, on reçoit dans la foi cette double onction sacerdotale, royale. On veut gouverner avec ton cœur, un cœur de serviteur, un cœur de compassion, un cœur d'amour pour les multitudes. Et on reçoit la passion pour toi, la passion pour les autres. On reçoit l'onction sacerdotale, l'onction royale, et on est alignés les uns avec les autres, et on est ton armée, cette armée avec un cœur de feu. Seigneur, on est ton armée, Joël 2. Ce n'est pas à cause de nous, mais à cause de toi, à cause de la justice que tu nous as donnée gratuitement. On n'y est pour rien, c'est uniquement toutes tes grâces, tout est accompli. Et on décide de s'aligner. Et Seigneur, chaque fois qu'on n'est pas aligné, tu nous rappelles, Saint-Esprit, viens dans ta grâce nous rappeler qu'on n'est pas aligné avec toi. On veut s'aligner avec les cieux, on veut marcher, vivre, être dans l'atmosphère du ciel tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est notre héritage. Plus de ta présence partout, Seigneur. Et fais de nous ces portes par lesquelles les ressources spirituelles des lieux célestes coulent tout autour de nous, dans le nom de Jésus. Amen.
Peut-être on demanderait à Émilie là, pour le chant de un chant final qui parle de la. De ce thème un peu. Où elle est, Émilie? Elle t'a dit, Anne? Elle t'avait prévenue? Oui, voilà. Voilà. Et oui, avec l'équipe de louanges. En même temps, pendant ce chant de victoire, on veut arroser aussi librement. Hein. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et on veut arroser avec nos biens également, de façon joyeuse, libre, souveraine. Voilà. On prend ce chant final et on... Ensuite, on pourra chacun se quitter. Je rappelle l'information, vendredi prochain, il y a Tabernacle de Louange. J'ai oublié de le donner. Donc à 19h, de 19h à 23h, c'est bien le 9 décembre, vendredi. Hein. Oui, donc c'est Tabernacle de Louange, vendredi prochain. D'accord ? Voilà.
C'est cette grandeur qui est en moi. Vous connaissez ce chant ? Check, check. Cette grandeur qui est en moi, celle en laquelle il me faut croire, c'est ta présence,
ta sainte présence.
Elle dépasse mes émotions, mes sentiments et tout mon être, c'est ta présence,
ta sainte présence.
Cette grandeur qui est en moi, celle en laquelle il me faut croire, c'est ta présence, ta sainte présence. Elle dépasse mes émotions, mes sentiments et tout mon être, c'est ta présence. Ta sainte présence.
Je m'adresserai à la tempête.
Je m'adresserai à la tempête. Je ne faillirai pas, car ta grandeur se réveille en moi. Tu es
es en moi, je suis en toi. Les cieux sont là, tout autour de moi. Tu es en moi, je suis en toi. Les cieux sont là, tout autour de moi.
Tu es en moi, je suis en toi.
Les cieux sont là, tout autour de moi. Tu es en moi, je suis en toi. Les cieux sont là, tout autour de moi.
Cette grandeur qui est en moi. Et on y croit.
Cette grandeur qui est en moi, celle en laquelle il me faut croire, c'est ta présence, ta sainte présence. Elle dépasse mes émotions, mes sentiments et tout mon être. C'est ta présence, ta sainte présence.
Je m'adresserai à la tempête. Je m'adresserai
à la tempête, je ne faillirai pas, car ta grandeur se réveille en moi. Tu es en moi, je suis en toi, les cieux sont là, tout autour de moi. Tu es en moi, je suis en toi, les cieux sont là, tout autour de moi. Tu es en moi, je suis en toi, les cieux sont là, tout autour de moi. Tu es en moi, je suis en toi, les cieux sont là, tout autour de moi.
Alléluia! Alléluia Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Eh bien voilà, passez une bonne semaine à vendredi soir pour le tabernacle. Et on distribue pour le vestiaire qui a lieu mercredi. Voilà.
Alors il faudrait au moins 5 équipes pour les tracts. Alors je ne sais pas qui avait fait ça la dernière fois, je ne m'en souviens plus. Mais ça serait bien de refaire. Il y a absolument besoin de faire le quartier de la Loche, qui est à côté de l'église, de faire le quartier vers le Super-U, c'est le Léo Lagrange, j'ai un trou, et faire le quartier du centre-ville et le quartier du haut de la ville. Donc ça fait 4 quartiers. Et c'est bien d'aller par